Brisenco, oui.
Est-ce que ça vous dérange si je fais quelques coupings?
Ça ne me dérange pas. Vous avez un flash ou pas?
Je peux le faire sans flash si j'allume un peu la lumière.
Non, enfin, pas simplement, non, si vous me prévenez, c'est pas flash. De toute façon, c'est pas un enregistrement, c'est pas ça. Ça va, après ce...
Oui. On va peut-être quelques coupings après.
D'accord.
Je peux allumer?
Oui. Mais il faut que je finisse pour midi. Hein.
Non, ça sera fini.
D'accord. Parfait.
Vous avez commencé vos études de médecine avec l'intention d'être chirurgien.
Oui.
Si vous les avez interrompus pour vous engager dans les forces françaises de Gaulle. Après la guerre, vous êtes revenu pour vos études, mais vous avez passé de la chirurgie à la chimie. Alors, j'aimerais bien que vous expliquiez pourquoi. Il y a l'affaire Lysenko, ce serait intéressant de vous.
Oui, mais ce n'est pas à cause de l'affaire Lysenko que j'ai abandonné la chirurgie. J'ai été blessé plusieurs fois, dont une fois grièvement en arrivant en France, en Normandie. Et j'ai un bras qui marche mal, une jambe qui marche mal. Donc, je ne pouvais plus être chirurgien. Parce que pour être chirurgien, il faut plus marcher bien. Je suis retourné à la faculté de médecine. Et vous savez, en France, il y a un système qui est un peu particulier, qui est le système des concours. Alors j'ai demandé à être interne sans être externe. Et ça, ils n'ont pas aimé du tout, ils n'ont pas voulu. Alors là, j'ai été complètement dégoûté par la médecine. Et j'ai essayé de faire plusieurs métiers. J'ai été un peu journaliste. J'ai failli être acteur de cinéma. J'ai fait un peu de l'industrie et puis finalement j'ai décidé de faire de la recherche et de la biologie et en génétique. Alors plus spécifiquement, c'était effectivement l'époque de l'affaire Lysenko. Et l'affaire Lysenko, alors je suppose que vous savez un peu ce que c'est pas la peine de développer.
Oui, mais
l'idée était que en Union soviétique, un ingénieur agronome qui s'appelait Lysenko avait décidé qu'il était capable, dans certaines conditions, de faire de meilleures tomates et du blé qui faisait pousser dans certaines conditions, et que par conséquent, le travail qu'il faisait ne répondait pas aux lois de la génétique, que par conséquent, la génétique était un mauvais système. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'il a obtenu l'accord de Staline, du comité central et de tout le système de l'État soviétique pour dire que la génétique était une science bourgeoise et que le système qu'il proposait, qu'il n'avait absolument rien à voir et qui était complètement stupide, était en réalité la vérité scientifique. Autrement dit, tout le système d'État et toute l'Union soviétique ont suivi ce personnage qui était visiblement, évidemment, un charlatan. Et tous les gens qui sont allés, qui l'ont vu, qui ont discuté avec lui, ont été frappés par son ignorance de tout et par la stupidité de ses propos. Et à la suite de ça, les gens qui faisaient de la génétique en Union soviétique ont été déportés en Sibérie et beaucoup sont morts. Et en France et dans les pays d'Europe occidentale, toutes les théories de Lysenko ont été reprises par les communistes qui ont vanté les mérites de la biologie soviétique et condamné ce qu'ils appelaient la génétique bourgeoise. Et ça a en partie contribué à m'orienter en biologie et en génétique.
Pour vous opposer à l'intolérance.
Oui, exactement, oui. Parce que je trouvais ça absolument extraordinaire qu'au milieu du siècle, on puisse rejeter 30 ans d'une science très solide pour rien et décider qu'on envoyait les gens en Sibérie comme ça. Voilà.
La recherche qui vous a permis d'expliquer la régulation de l'expression des gènes et qui vous a porté le prix Nobel a été faite avec des bactéries.
Ouais.
Et puis, contrariance. Qu'on pouvait attendre, vous avez osé passer de la bactérie à la souris.
Oui.
Alors j'aimerais bien que vous parliez de l'intérêt de ça, quelles en furent les... Enfin, quelles en furent les...
D'accord. Alors, nous avons travaillé, c'était, il y avait tout un groupe, en particulier deux équipes, dont l'une était dirigée par André Leboeuf et l'autre par Monod, et nous avons travaillé sur deux systèmes, l'un qui était les virus des bactéries, qui s'appellent les bactériophages, et l'autre qui était une synthèse d'une protéine, synthèse d'un enzyme. Alors je n'entrerai pas dans le détail, mais en analysant le système qui faisait d'un côté, qui, on avait un virus qui restait muet, silencieux, non virulent à l'intérieur des bactéries, mais qu'on pouvait activer dans certaines conditions et qui tuait la bactérie en se multipliant. De l'autre côté, il y avait un système avec une protéine, un enzyme, qui n'était fait que dans certaines conditions, qui était fait simplement quand on mettait certains produits dans le milieu de culture. Et alors ce qu'on a montré, c'est que dans les deux cas, qui a priori au début paraissaient des systèmes complètement différents, étaient en fait deux systèmes obéissant aux mêmes lois, à savoir un système de régulation, une sorte de cybernétique, hein, une boucle régulatrice qui bloquait l'activité d'un gène, et qui, avec un signal envoyé du dehors, levait l'inhibition et permettait l'activité du gène de fonctionner. Alors ça montrait qu'il existe des systèmes qui règlent l'activité des gènes, et ça montrait que ce sont des systèmes qui sont eux-mêmes dirigés par des gènes. Et ça nous a permis de montrer, premièrement, que le produit des gènes était ce que nous avons appelé le messager, l'ARN messager, et que c'était la production ou la non-production de ce messager qui était le système de base de régulation. Alors ça, c'était fait effectivement chez les bactéries, et dans les années 70-71, enfin à la fin des années 60, j'en avais un peu assez des bactéries, je voulais travailler sur autre chose, j'ai un peu hésité entre mouches, souris. Finalement, je suis tourné vers la souris parce que ici, à l'Institut Pasteur, c'était plus raisonnable de s'occuper de souris que de mouches, les souris étant un matériel sur lequel on travaille pour l'immunologie, pour les infections, pour la virologie, etc. Donc, notre espoir avec Monod, avec qui nous avions fait ce travail, était que les mécanismes trouvés chez les bactéries devaient être à la base des mécanismes qui existent chez les organismes plus compliqués, que vraisemblablement les mécanismes chez les mammifères seraient plus compliqués que chez les bactéries, mais l'idée était que probablement les principes seraient les mêmes et qu'on arriverait en compliquant les circuits à quelque chose de plus compliqué. Donc j'ai voulu passer sur un organisme plus compliqué, j'ai hésité entre mouche et souris, finalement j'ai pris la souris parce que ici c'était plus raisonnable. Alors j'ai travaillé sur, et l'idée était surtout que probablement les systèmes régulateurs doivent être en jeu, les systèmes régulateurs du genre de celui que nous avions trouvé, devaient être en jeu dans les mécanismes très compliqués qui président au développement de l'embryon. Parce que probablement la chose la plus compliquée sur cette Terre, c'est comment à partir d'un œuf, d'une seule cellule, qui reçoit des morceaux du père et de la mère, comment on fait un bonhomme ou une bonne femme comme vous ou moi. Ça, c'est très compliqué. C'est des centaines de milliers de réactions. Donc il faut que ça soit très précisément réglé, et notre espoir était que vraisemblablement il y aurait des principes qui seraient les mêmes chez les organismes supérieurs, mais agencés de façon plus complexe. Donc je me suis mis à la souris, et je me suis mis en particulier au stade du début de la souris, et tout particulièrement sur une tumeur de la souris qui s'appelle le teratome, et qui permet d'étudier dans des tubes à essai, le développement de la différenciation.
Bon, dans le dernier siècle, Pasteur a fait une révolution dans la médecine avec la critique de la théorie de la génération spontanée. Après, ses élèves ont découvert le vaccin contre la tuberculose. Le virus du sida a été découvert par Montagnier, qui lui aussi travaille dans l'Institut Pasteur, que vous avez dirigé de 1982
à 1984. Je n'ai pas dirigé l'Institut Pasteur. J'ai été président du conseil d'administration. Je n'ai pas été dirigé.
D'accord. Bon, comment peut-on expliquer ces grandes, ces traditions de succès scientifique qu'on a?
Oui, il y a beaucoup de facteurs. Un des facteurs qui sont importants, je crois, c'est que c'est la souplesse de l'Institut Pasteur. Quand Pasteur a trouvé son vaccin contre la rage et qu'il a été décidé par l'Académie des sciences de faire un Institut Pasteur, la question s'est posée de savoir s'il fallait attacher ou lier cet Institut Pasteur à l'université ou à certaines des organisations qui existaient déjà en France. Et Pasteur avait été, connaissait bien les universités, il avait été recteur à Lille, il avait été doyen de faculté des sciences dans plusieurs régions, il avait été à l'école normale, et il ne voulait absolument pas que l'Institut Pasteur soit lié à l'université et lié aux structures d'État habituelles. Et il a décidé qu'il voulait une structure privée, libre, avec un mécanisme où on pourrait fabriquer des produits, des vaccins, des sérums, etc., vendre ces produits, et la vente de ces produits permettrait d'alimenter la recherche en argent. Alors, c'est ce qui s'est passé. L'Institut Pasteur avait donc une structure très souple, beaucoup plus souple que les organismes d'État, que les universités ou que les organismes comme le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique. Et c'est pour ça qu'il peut, dans certaines circonstances, répondre plus vite aux questions, aux impératifs de la recherche. C'est pour ça que la biologie moléculaire a commencé, en France a commencé ici, et c'est aussi pour ça que le virus du sida a été isolé ici. Alors, le système dont je vous parlais, c'est-à-dire cette espèce de cycle où la production alimente la recherche, ça a très bien marché jusqu'à la fin de la guerre. Mais l'Institut Pasteur a raté l'industrie des antibiotiques qui ne s'est pas faite ici. Et vers les années 70, l'Institut Pasteur a connu des difficultés financières considérables. Et maintenant, il y a un système où l'État donne une certaine part du budget, le reste du budget étant alimenté par les recherches, les ventes de produits industriels, etc. Et ça a toujours une souplesse plus grande ici qu'il y a dans les organismes comme vous dites.
Bon, la première partie de ce siècle a été dominée par la physique, la deuxième par la biologie. J'aimerais, si vous pouvez nous dire quels sont les, à votre avis, les principales découvertes de la biologie dans ce siècle.
Ben, la principale, enfin, si on part du siècle, si on recommence à temps zéro, c'est-à-dire en 1901, il y a beaucoup de choses là. Il y a eu en particulier une espèce de transformation totale de la vision des choses. Dans les années, au début du siècle, d'abord on ne connaissait pas du tout les gènes et il n'y avait pas de génétique. On connaissait les cellules, bien évidemment, ça c'était une découverte du siècle précédent. Et on avait l'impression que les cellules contenaient une espèce de petite masse gélatineuse qu'on appelait le protoplasme, et que c'est dans le protoplasme qu'il se passait des quantités de choses par des vertus très particulières. Et puis on a découvert les protéines, les différences entre les protéines, l'importance des protéines, les enzymes qui catalysent les réactions chimiques, les gènes, les hormones, qui ont été découvertes au début de ce siècle. Et peu à peu, la vision que l'on avait des systèmes vivants, des organismes vivants, s'est complètement transformée, en particulier au milieu de ce siècle, par la naissance de la biologie dite moléculaire. Et la biologie moléculaire essaye d'expliquer les propriétés des êtres vivants, qui sont des propriétés assez complexes et assez extraordinaires, et pour lesquelles, il n'y a encore pas très longtemps, on faisait appel à ce qu'on appelait une force vitale, c'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas en physique ou en chimie, qui est faux. Donc on faisait appel à une force vitale, et la biologie moléculaire, elle, essaie d'expliquer les propriétés des organismes vivants par la structure et les propriétés et les interactions des molécules qui composent ces êtres vivants. le grand succès de cette biologie moléculaire a été la découverte, d'abord la découverte que le matériel qui porte l'hérédité est le fameux acide désoxyribonucléique, et deuxièmement la structure de cet acide désoxyribonucléique, la double hélice, etc. Bon, donc ça, c'est la, ça a été la, la, la grande découverte. Et la, beaucoup de ces découvertes, cette nouvelle façon de voir la biologie, se sont faites grâce au travail sur les bactéries. Pendant très longtemps, les bactéries, le rôle des bactéries dans les affaires humaines comme agent de maladie de, des hommes ou des animaux, comme agent de... mais surtout comme agent de maladie, avait pris une telle importance qu'on ne s'occupait plus du rôle des microbes comme matériel très simple pour étudier le monde vivant. Et c'est dans les années 30-33 que les biochimistes et les physiologistes se sont aperçus que tous les organismes étaient composés des mêmes molécules, des mêmes types de molécules. Et on a pu faire chez les bactéries, parce qu'on manipulait des milliards d'individus, pardon, des milliards d'individus, parce qu'il était devenu possible de faire de la génétique chez les bactéries, parce que les bactéries pouvaient avaler cet acide désoxyribonucléique qui transformait leur propriété. C'est pour ça qu'on a pu faire ces débuts d'analyse génétique et d'études génétiques. Mais très vite, on a voulu évidemment passer aux organismes plus compliqués, mais c'était, on était très limité parce que c'était beaucoup plus compliqué, et en particulier, l'acide nucléique d'un homme est mille fois plus compliqué que celui d'une bactérie. Jusqu'au moment où sont arrivées des nouvelles découvertes qui ont permis de travailler, de manipuler l'acide nucléique des organismes les plus compliqués grâce à ce qu'on a appelé le génie génétique. Et on a pu, à partir des années 70, repérer les gènes, isoler les gènes, et faire la structure de gènes de n'importe quel organisme, le plus compliqué soit-il, de nous-mêmes, de les analyser, de faire la séquence, de l'introduire, de prendre le gène d'un organisme pour le mettre dans un autre, et de pouvoir étudier ainsi leurs fonctions. Donc, à partir des années 70-75, le génie génétique a transformé entièrement l'étude des organismes les plus compliqués.
Bon, nous savons aujourd'hui que le cancer est une maladie génétique, oui. Et il y a même une thérapie génique du cancer.
Il y aura probablement.
J'aimerais bien savoir quelle sera la portée de cette thérapie et quelles seront ses limites.
Que vous savez qu'il est, il est très difficile de faire des prévisions. Comme disait l'autre, surtout quand il s'agit de l'avenir.
Ouais.
C'est très difficile. Et quand on fait les prévisions, on est sûr de se tromper. Et on peut dire en particulier que si on avait demandé dans les années 1850, c'est-à-dire avant Pasteur, quels sont les mécanismes des maladies infectieuses, personne n'aurait parlé des bactéries, donc tout le monde disait, personne ne s'occupait, sans même se réactionner en arrière. Si on avait demandé en 1950, si on avait prédit qu'on comprendrait la chimie de l'hérédité avant la chimie des tendons, personne ne disait, difficile. Alors, votre question c'est quoi?
Qu'est-ce qu'on peut espérer?
D'abord, il faut dire que depuis quelques années, pour la première fois, on commence à comprendre ce qu'est le cancer. Jusque dans les années 70, on n'en avait pratiquement aucune idée. On se disait bien qu'un cancer, en fait, c'est une maladie des systèmes régulateurs dont on parlait tout à l'heure. Une cellule, les bactéries ou les levures sont des cellules isolées qui se multiplient pour leur propre compte, qui ne s'occupent pas de leurs voisines et de leurs amis. Une cellule chez un organisme comme nous, de notre corps, que ce soit une cellule de la peau, une cellule du foie ou une cellule du muscle, sait qu'elle fait partie d'un organe, sait qu'elle fait partie d'un organisme et sait qu'il ne faut pas se multiplier n'importe comment. Et elle le sait parce qu'il y a des systèmes qui disent à cette cellule « Ne vous multipliez pas dans cette condition, multipliez-vous mais un peu seulement, etc. » Et
elle est renseignée
par des systèmes régulateurs. Et par conséquent, elle est maintenue dans un ordre très précis qui est l'ordre du corps. De temps en temps, ces systèmes doivent se casser, s'abîmer, s'altérer, comme nous avions montré que ça se passait chez les bactéries, où nous avions pu étudier ces systèmes en regardant les mutations quand ces systèmes de régulation étaient cassés, quelles étaient les conséquences, et c'est comme ça qu'on avait pu déduire comment ça marche. Donc on pouvait dire qu'il devait y avoir des systèmes régulateurs et que vraisemblablement c'était une modification d'un de ces systèmes régulateurs qui était à la base du cancer. Et ça, c'était du raisonnement abstrait. Et depuis 1970, à peu près, ou 75, on a pu commencer à faire des expériences et on montre maintenant qu'effectivement, ce sont des systèmes qui sont gouvernés génétiquement très étroitement, qui impliquent un certain nombre de gènes, qui gouvernent la régulation cellulaire, qui gouvernent la quantité de division cellulaire qu'il va y avoir dans cette condition, qui agence la division de la cellule et la différenciation de la cellule, qui fait qu'une cellule devient une cellule de peau, une cellule de foie, une cellule, etc. Et que ce sont ces systèmes-là qui sont cassés. Et on commence à connaître maintenant les gènes qui sont impliqués dans la division cellulaire, et il y en a toute une quantité, et on commence à comprendre comment les mutations de ces gènes peuvent conduire à des cancers.
Mais oui. Il y a quelque chose qui peut intervenir pour que ce système se dérègle, voilà, dans la vie de la personne.
Ce système se dérègle soit parce qu'il y a une mutation dont on ne connaît pas la cause, soit qui est entraînée par exemple les rayons ultraviolets sur la peau. Alors les rayons ultraviolets sont connus pour casser l'ADN, le fameux ADN, donc casser les gènes, et en cassant certains gènes qui ont à voir avec la régulation de la division cellulaire, ça peut entraîner une lésion qui fait que la division cellulaire, au lieu d'être bien contrôlée, bien réglée, devient anarchique.
On dit que le cancer a un rapport avec la dépression, est-ce que vous pensez?
Avec la dépression, ouais. Quelle dépression?
La dépression psychique.
Ah bon?
Ah oui. Vous
n'avez
pas entendu parler?
Non, probablement.
Le neurologue.
Il est possible que les gens qui ont un cancer
se dépriment après,
ou que la dépression favorise. Ça, je ne sais pas.
Bon. Alors, par la génétique, on peut maintenant savoir si un individu va avoir une maladie ou pas. Est-il possible?
On peut prévoir. Oui, mais alors là, on ne peut pas le dire comme ça. Il y a des cas où on peut prévoir qu'un individu va avoir une maladie très grave quand il aura 40 ans. Bon, ça c'est par exemple la Corée, ce qu'on appelle la Corée de Huntington, qui est une terrible maladie, qui fait que en regardant les gènes d'un bébé ou d'un enfant, on peut prévoir que vers les 40-45 ans, il aura une maladie épouvantable, terrible, et qu'il mourra. Presque sûrement. Ça, c'est une chose. Mais surtout, ce qu'on peut commencer à voir, c'est que, suivant l'état des gènes, on a une certaine probabilité plus grande de faire telle ou telle maladie. C'est-à-dire qu'on peut, en regardant les gènes de M. X ou de M. Y, dire que M. X, s'il fait un cancer, fera probablement un cancer du poumon, mais pas un cancer de la prostate, et que M. Y, lui, s'il fait un cancer, fera probablement un cancer de la prostate, et pas un cancer du poumon. Autrement dit, il y a des cas où la maladie est à peu près certaine, et d'autres cas où c'est simplement on accroît les probabilités. C'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que M. X aura un cancer sûrement du poumon. Mais on peut dire qu'il a beaucoup, il a des chances.
C'est plus probable.
Oui, c'est plus probable que ce soit.
Quelles sont les implications éthiques de cette génétique?
C'est très compliqué, ça, parce que les implications éthiques, c'est Si chacun, vous savez, la vie, si chacun savait, le fait qu'on sait qu'on va mourir est difficile à supporter. Mais ce qui la rend supportable, c'est qu'on ne sait pas quand on va mourir. Et si on savait quand on va mourir, les choses seraient beaucoup plus difficiles. Hein. Non? Vous ne voudrez pas. Si on vous dit après-demain matin, terminé. C'est pas la même chose que vous dites, je sais que je mourrai un jour. C'est pas du tout pareil. Il y a un film de René Clair, vous n'avez pas vu ça? Il y a un film de René Clair qui s'appelle C'est arrivé demain. C'est arrivé demain, c'est un type qui a rencontré un fantôme et qui a été gentil avec le fantôme, et le fantôme veut être gentil avec cet journaliste. Non, c'est pas un journaliste, hein, c'est ce qu'il est. Et il lui apporte tous les matins ou tous les soirs le journal du lendemain. Alors le type, c'est formidable. Il peut jouer aux courses, il peut jouer à la bourse, il sait comment trouver les petites amies quand il faut, etc. La vie est merveilleuse. Et puis un jour, il lit dans le journal du lendemain qu'il mourra à tel endroit, de telle façon. Alors c'est épouvantable. Il cherche absolument à éviter la mort, à ne pas être là où on lui a prédit qu'il serait écrasé par une voiture. Finalement, il ne peut pas y échapper. Il est là, mais il vit quand même parce qu'il y a quand même des fausses nouvelles dans les journaux.
Les gens sont toujours, ça, beaucoup de gens sont confrontés et savent qu'ils vont mourir.
Non, mais tout le monde sait qu'on va mourir.
C'est grave, et que
oui,
sont condamnés.
Oui, mais à ce moment-là, c'est des dépressions, c'est ce que vous dites. Mais les jeunes gens dans la nature, en principe, et vous et moi, jusqu'à présent, et même si je suis beaucoup plus âgé que vous, j'arrive quand même à survivre et à faire des trucs, etc., parce que je ne sais pas quand je vais mourir. Mais si on me disait tu mourras après demain, ça m'ennuierait beaucoup. C'est quand même le fait de ne pas savoir est important. Enfin, ça, c'est une incidence. C'est à propos de... Ah, c'est l'éthique, oui. Alors, l'éthique, ce qui est très compliqué là-dedans, l'éthique, c'est le rôle du patron, c'est-à-dire les gens qui embauchent du personnel ou les compagnies d'assurance. Autrement dit, il y a des problèmes qui vont se poser qui sont très compliqués. De savoir est-ce qu'il faut faire cette analyse des probabilités, d'abord est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut chercher, sauf dans des familles où on sait par exemple qu'il y a des cancers de mère en fille, des cancers du sein, ça arrive, il y a des familles, des femmes qui ont des cancers du sein. Alors vous avez une série de... Ça n'a d'intérêt que quand on peut faire quelque chose, quand on sait faire une thérapeutique, quand on sait... Si on ne sait pas, s'il n'y a pas de thérapeutique comme par exemple cette Corée de Huntington, ce n'est pas tellement intéressant de savoir. Alors la question, c'est de se poser, de se demander est-ce qu'il faut faire ça, est-ce qu'il faut faire ces études, en particulier dans des cas où on ne peut absolument rien faire.
Et alors
ça, c'est une question que je ne répondrai pas ma réponse à moi. Ce n'est pas moi qui décide l'éthique, le droit et la morale, mais c'est une question qui se pose. L'autre question, c'est de savoir ces informations qui vont être acquises concernant M. X, qui doit les connaître ? Est-ce que c'est M. X tout seul ? Est-ce qu'il doit ce qu'il faut lui dire ou pas lui dire ? Est-ce que quand on sait qu'un type va mourir à 40 ans dans des souffrances épouvantables, comme la Corée de Huntington, est-ce qu'il faut lui dire ou pas lui dire ? Alors,
a-t-on le droit de ne pas dire ?
Bon,
c'était la question de Freud quand il a eu ce cancer, et on ne voulait pas lui dire, et il a posé la question, mais de quel droit vous...
Mais aussi de quel droit est-ce qu'on peut lui dire ? C'est très compliqué. C'est des questions qui peuvent... Je crois qu'il y en a pour de longues discussions entre les prêtres, les philosophes, les médecins et autres. Est-ce qu'il faut lui dire à lui ? Est-ce qu'il faut dire à sa famille ? Est-ce qu'il faut lui dire à lui pour éviter qu'il fasse des enfants ? Est-ce qu'il a le droit de faire des enfants ou pas d'enfants ? Il y a vraiment des questions très complexes. Et est-ce que le patron, le type chez qui il est engagé, est-ce qu'il faut lui dire ou pas ? Et la compagnie d'assurance aussi. Donc, on dirait qu'il y a toute une série de problèmes dans lesquels je n'entrerai pas.
Bon, la notion de race est une notion qu'on continue d'utiliser.
Pas dans le vocabulaire scientifique.
Oui, justement. Et comme je veux que les gens sachent que c'est disparu du vocabulaire, c'est pour ça que je pose cette question.
D'accord.
Elle continue d'être utilisée par ceux qui veulent trouver un fondement biologique pour les différences culturelles.
C'est ça. On cherchait un alibi, on dirait.
Voilà.
Un alibi biologique.
Mais d'après vous, elle est complètement. Et d'autres
scientifiques,
elle n'existe plus dans le vocabulaire scientifique. Est-ce que vous pouvez donner deux ou trois raisons pour lesquelles cette notion est une notion.
Oui, c'est pas ça. Parce que on a fait, il y a eu une exploration de je ne sais plus quelle île, et on a étudié, c'est un exemple, un certain type d'escargot. Et les premiers types, les premières personnes qui ont étudié cette espèce d'escargot sont arrivées à la conclusion qu'il y avait à peu près 7 ou 8 races d'escargots de cette espèce. Et puis, à mesure qu'on en savait plus, à mesure qu'on en recherchait plus, on est arrivé à penser qu'il y avait 35 races de cet escargot. Puis on est passé à 80. Et c'est la même chose avec les hommes, c'est-à-dire on a commencé au 19e siècle, quand on a commencé à parler, à faire de l'anthropologie physique et à parler de race, on a parlé de 4 ou 5 races, de blanche, noire, jaune, rouge, etc. Et puis on est passé à 9 ou 12, et puis on est passé à 65 races. Et finalement, ça n'a plus aucun sens, parce que plus on étudie du caractère, plus on est obligé de compter de races. Alors aujourd'hui, on ne parle, en biologie, les biologistes ne parlent, ou les anthropologues ne parlent plus de races, ils parlent de population. Et ils essayent de comparer les caractères, la diversité des caractères, et maintenant il y a des caractères, on en connaît chez les êtres humains, des milliers. On peut repérer chez un individu en regardant le sang, en regardant les enzymes, en regardant toute une série de choses. On connaît maintenant des gènes, des centaines de milliers de caractères différents. Et on s'est aperçu que quand on compare ces caractères dans des populations très différentes ou au sein d'une même population, très souvent, la diversité des caractères est aussi grande au sein d'une même population, ce qu'on appelait autrefois une race, ce qu'on appelle plus une race, que d'une population à une autre, c'est-à-dire entre les races différentes. À ce moment-là, l'idée de race, ça ne veut rien dire. Donc on parle de population et de distribution de tel ou tel caractère dans telle ou telle population. Mais en gros, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que...
On peut vous répondre que néanmoins, bon, la peau blanche, la noire et la noire...
Non, c'est d'accord, ça, personne ne songe à dire que la peau blanche et la peau noire ne sont pas différentes, mais ce ne sont pas des différences, on ne parle plus de différences raciales pour ça. On parle de population noire et de population blanche. D'ailleurs, au Brésil, ça se dilue beaucoup parce que ça se mélange énormément. Et ça, c'est un pas très bon exemple. Et le seul concept qui a une valeur opératoire sérieuse, c'est le concept d'espèce. C'est-à-dire quand les gens peuvent avoir des enfants entre eux. Ça, le Brésil est un superbe exemple de la façon dont se distribue et se dilue et se modifie les caractères et où tous les...
C'est même un des meilleurs exemples.
C'est un des meilleurs
exemples,
absolument.
Mmh.
Tout à fait.
C'est
tout
le
fait.
Vrai
Mathilde Pokémon. Absolument. Je suis bien d'accord.
Vous connaissez le Brésil?
Je suis allé au Brésil il y a 2 ans, il y avait un colloque à Rio. Il y a 2 ans, le centenaire de la naissance de Pasteur. Et nous avons fait des colloques, un colloque dans chaque continent. Et il y en avait un à Rio, où je suis allé. Et j'ai assisté pour ce soir à la période du carnaval, mais j'ai vu le carnaval de Rio qui est
fantastique.
J'ai fait un petit tour aussi. Pas très loin, mais...
Bon, alors, on arrive à la fin de notre interview. Ouais. Je vais vous poser une question sur la science et l'art. Parce que je pense que vous êtes un scientifique, un peu poète. Vous dites même que vous préférez la poésie à la religion, dans un de vos livres, je pense.
Oui, ça sûrement. Je ne sais pas si je le dis.
Mais vous dites que la science comme l'art est une des grandes aventures de l'humanité. J'aimerais bien que vous me disiez qu'est-ce qu'il y a de commun et de différent entre le scientiste et l'artiste. Oui, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qu'il y a de différent.
Bon, les différences, elles sont très évidentes. Elles sont très... En particulier... En science, vous avez un progrès, c'est-à-dire que les découvertes qui ont été faites par Newton sont dépassées par les découvertes qui ont été faites après, disons, par Einstein. La biologie qui avait lieu au 19e siècle est beaucoup moins bonne que la biologie qui se fait maintenant, et la biologie qui se fait maintenant sera dépassée par le siècle qui vient. Donc, en science, on fonctionne vraiment par le progrès et on sait qu'on travaille sur ce que faisait déjà l'équipe avant et qu'on fait des choses qui sont plus avancées et on sait que
c'est peut-être un des seuls domaines de l'histoire humaine où on peut parler sérieusement de la notion de progrès.
Oui, c'est un des rares, c'est assez vrai là. En art, c'est pas vrai ça, parce que en art, si vous regardez la sculpture cycladique, la sculpture de l'art grec de moins 1500, ou la sculpture de la Grèce classique, ou la sculpture de l'Égypte, c'est pas moins bien que les sculptures modernes, que Rodin, ou que... Et vous ne pouvez pas dire que Picasso soit meilleur que Rembrandt. Ça n'a aucun sens. C'est complètement différent.
C'est la différence. Qu'est-ce qu'il y a de commun?
Alors, à mon avis, ce qu'il y a de commun, c'est l'imagination de départ. C'est que tout, au départ, est un effet d'imagination. Quand les gens essayent de se représenter... Parce que la science, c'est d'essayer de se représenter la réalité du monde ou une petite fraction de ce monde. Et quand les gens essayent de se représenter ce que c'est que l'atome, puisque l'atome c'est difficile à frapper et à saisir dans toute sa réalité, eh bien, ils utilisent toutes les données qui ont été accumulées par des siècles de physiciens et de physiques pour se faire une certaine représentation. Et c'est la même chose avec la physique, les acides nucléiques et les gènes. Au début, il y a un effort d'imagination, et je pense que l'effort d'imagination est probablement très voisin dans toutes les activités intellectuelles humaines, que ce soit de la poésie, que ce soit de la peinture, que ce soit de la science, que ce soit de la religion. Je crois que dans tous les cas, il s'agit d'essayer de créer une certaine représentation. Et puis à partir de là, ça change complètement, parce que le poète, lui, il peut raconter n'importe quoi, tout le monde est très content, ça va très bien. Le romancier peut raconter n'importe quoi, le peintre peut peindre en bleu les yeux qui sont évidemment rouges pour tout le monde, c'est très joli, c'est une certaine façon de voir le monde. Le scientifique peut pas, le scientifique peut imaginer une certaine réalité, mais il est obligé de vérifier, de la confronter à la réalité. Et il est obligé à tout instant de reconfronter à la réalité, de voir si ça va ou ça ne va pas. Ça fait une grosse différence. Et, si ça, et il ne peut pas faire ce qu'il veut. Le poète, l'artiste peut en gros faire ce qu'il veut. Le scientifique, lui, est obligé chaque fois.
Il peut faire ce qu'il veut, pourvu qu'il suive une certaine logique, qui est la sienne.
C'est pas tellement qu'il suive une certaine logique, c'est que l'expérience soit en accord avec ce qu'il souhaite. Et si l'expérience n'est pas en accord avec ce qu'il souhaite, il est obligé de balancer ce qu'il souhaite. Mmh. Alors que l'artiste peut parfaitement conserver ce qu'il souhaite.
Bon, alors dernière question. Quelles sont les conséquences pour notre vie? Les découvertes que la biologie a faites dans ce siècle, et quel est, à votre avis, le rôle de la biologie dans le prochain siècle?
Alors que la science est faite pour produire de la connaissance avant de produire des applications. Mmh. Et je pense que la plupart du temps, les scientifiques, si vous voulez, pour avoir de l'argent, essayent d'expliquer qu'ils vont guérir le cancer. Mais ils savent très bien que ce n'est pas comme ça que ça se passera et qu'ils ne guériront pas le cancer demain matin ou après-demain matin. Ce qui les intéresse, c'est en gros, c'est de savoir comment ça marche et pourquoi c'est comme ça, pourquoi ce monde est comme ça. Parce que ça, c'est quand même, ce monde est quand même un monde extraordinaire. Pour des questions assez simples, par exemple, pourquoi est-ce qu'on se met à deux pour en faire un troisième? C'est pas absolument évident. Et pourquoi pas quatre ou cinq? Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas être trois ou quatre ou cinq pour faire un enfant? Ça pourrait aussi bien exister. C'est pas comme ça que ça marche. Donc, les scientifiques, en gros, ce qui les intéresse, c'est la façon dont fonctionne. Parce que quand vous prenez ça, il va tomber
partout. Mais c'est que tomber. Elle nous apporte quand même.
Voilà. Cela étant, ça permet de faire un certain nombre de choses, je suis d'accord. Et, alors, je pense, si vous voulez, que l'âge de la durée de vie moyenne des citoyens a beaucoup augmenté. Alors on peut discuter de savoir si c'est dû à la science, à la médecine, si c'est pas que ça a plus les mains, qu'on a plus à manger, qu'on vit mieux, etc. Mais enfin, l'un dans l'autre, c'est la même chose. Et la vie est allongée. Je crois que, si vous voulez, on ne dépassera pas, on ne sera pas immortel.
Heureusement,
comme vous dites. Je crois qu'on ne dépassera pas 100, 110. Mais peut-être pourra-t-on améliorer. Peut-être aura-t-on des gens qui n'auront plus mal partout quand ils ont 90 ans. Peut-être aura-t-on des gens qui à 100 ans font l'amour comme s'ils en avaient 20, etc. Donc, comme on dit, je pense qu'on pourra avoir une vie beaucoup plus agréable vers la fin de sa vie qu'on a aujourd'hui. Plus longue et plus agréable et avec des maladies plutôt maîtrisées. Encore que chaque fois qu'on en maîtrise une, il en apparaît une autre. Et ça, c'est l'évolution, ça, c'est le système dans lequel nous sommes. Les choses évoluent, les choses ne restent pas comme elles sont. Et c'est pour ça aussi qu'on ne peut jamais prévoir ce qui se passera. C'est parce qu'on sait que ça va changer, mais on ne peut pas savoir comment ça va changer.
On parle même d'un virus exterminateur.
Par exemple, oui, absolument, pourquoi pas. Mais c'est clair que le sida, personne n'y pensait. Et on ne sait même pas encore très bien comment il est arrivé, d'où il sort, ce sida. Des virus comme Ebola, vous savez, les virus. Il y a, je ne sais plus quel était le virus, je ne sais pas si c'est pas Ebola ou un de ces virus-là, où on sait maintenant que c'est un virus qui était à peu près en équilibre, qui ne se manifestait pratiquement pas dans les petites populations, et ce sont les déséquilibres, les changements de population, les migrations, etc., qui change les chansons, il y en aura d'autres qui viennent. Par conséquent, la recherche c'est un bon métier parce que ça ne sera jamais fini.
Ok, merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose? Non? C'était merveilleux.